Bonjour à tous, frères et sœurs. Tout d'abord, je vais me rapporter au livre de Jean. Donc, si vous voulez bien commencer à vous y reporter. L'évangile selon Jean, bien sûr, concerne le ministère de Jésus-Christ, comme le sont également les trois autres évangiles. Cependant, l'évangile de Jean est assez différent des trois autres. Par exemple, environ un tiers de l'évangile selon Jean concerne les événements liés à la Pâque et à la résurrection du Christ. Ces événements, bien sûr, couvrent une très très courte période de l'ensemble du ministère de 3 ans et demi de Jésus-Christ. Mais Jean ne commence pas son évangile par ces événements. Jean ne commence pas non plus son évangile par le ministère de Christ. Il n'a pas non plus commencé par la généalogie de Jésus, montrant qu'il est de toute évidence le fils de David, et ainsi de suite. Au lieu de cela, Jean a commencé son évangile par une révélation très importante sur la préexistence de Jésus-Christ. C'est comme si Jean disait, avant même qu'il ne puisse écrire quoi que ce soit au sujet de Christ, de sa vie ou de son ministère, que lui, Jean, devait d'abord établir la nature de celui qui est notre Sauveur et comment et pourquoi il pourrait être notre Sauveur. Ainsi, l'affirmation préliminaire de Jean commence par la réponse à cette question : qui est Jésus ? Qui est le Christ ? Et Jean répond ou aborde cette question importante dans sa déclaration préliminaire. Voici ce qu'il a écrit à propos de Christ. Jean chapitre 1, verset 1, si vous y êtes déjà. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que la parole ? Ou qui est la parole ? Eh bien, Jean répond également à cette question pour nous, au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Évidemment, Jean parle ici de Christ. Ainsi, lorsque Jean parle de la parole, il se réfère à Jésus-Christ. Maintenant, revenons au verset 1. La première phrase, « Au commencement était la parole », cela veut dire « avant que quoi que ce soit ne commence, avant que quoi que ce soit n'existe ». La parole était déjà là. La parole existait déjà. De toute évidence, c'est ici une autre façon d'exprimer l'éternité. Alors, cela nous amène à considérer maintenant un autre verset que j'aimerais lire dans le livre des psaumes. Psaume 90, verset 2, si vous voulez bien vous y reporter, s'il vous plaît. Psaume 90, verset 2, le psalmiste écrit « Avant que les montagnes soient nées, autrement dit, avant la création, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et là, c'est une déclaration très impressionnante. Nous ne pourrions dire cela d'aucun être humain. Nous ne pourrions même pas dire cela des anges. Nous ne pouvons dire cela que de Dieu. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire sur Dieu. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne. Dieu est puissant. Et ainsi de suite. Il y a tant de choses que nous pourrions dire sur Dieu. Bien entendu, ce sont les caractéristiques inhérentes qui décrivent Dieu. Mais quand on parle d'un être qui est éternel, qui a toujours existé, on ne parle que de Dieu. Dieu seul est éternel. Dieu seul n'a pas été créé. Dieu seul a toujours existé. C'est une caractéristique inhérente à Dieu. Mais Jean révèle quelque chose de très important dans cette première phrase, « Au commencement était la parole ». Il dit que la parole, Jésus-Christ, en d'autres termes, était là depuis le commencement. Par conséquent, la parole, Jésus-Christ, est éternelle. Il a toujours existé. Et donc, comme nous venons de le lire, dans le psaume 90, verset 2, la parole, Jésus-Christ doit être, point de suspension, et vous ajoutez la suite, un être qui a toujours existé depuis le commencement, éternellement, doit être Dieu. C'est exactement ce que nous avons lu dans le psaume 90, verset 2. C'est un fait qui est établi dans la toute première phrase que Jean a écrite. Si nous n'avons rien d'autre dans ce verset, cela suffirait à nous démontrer que la parole, Jésus-Christ, est Dieu. Passons maintenant à la deuxième phrase. La parole était avec Dieu. Avec signifie qu'il y a une relation entre la parole et Dieu. Le mot « avec » indique aussi une séparation entre les deux. Nous sommes en présence de deux êtres distincts. L'un est avec l'autre. La parole et Dieu le Père ne sont pas un seul et même être. L'un est avec l'autre. La parole était en présence de Dieu, mais distincte de Dieu. Et en même temps, bien sûr, en communion avec Dieu. La parole était avec lui. Nous arrivons maintenant à la troisième phrase. La parole était Dieu. Et cela signifie exactement cela. C'est ce que ça veut dire. Non seulement la parole était avec Dieu dès le début, mais la parole était aussi Dieu. Dieu le Père est Dieu, mais la parole est aussi Dieu. Maintenant, permettez-moi de le dire brièvement, cela ne signifie pas le polythéisme. Le polythéisme signifie une croyance en plusieurs dieux. Il n'y a ici qu'un seul Dieu, mais à l'heure actuelle, il y a deux êtres dans ce seul Dieu. Dieu le Père et Dieu la parole. Il y a deux êtres, mais un seul Dieu. C'est ce que Jean, chapitre 1, verset 1, nous dit. Jean ne parle pas d'un être. Il parle de deux êtres distincts. C'est comme je l'ai dit, cette première phrase est suffisante pour établir que la parole, Jésus-Christ, est éternelle et qu'il est Dieu. Jean voulait dire simplement, alors qu'il passait à la troisième phrase, « Soyons clairs, la parole était Dieu ». Il n'y a donc aucun doute sur le fait que la parole était Dieu. Deux êtres sont décrits, et tous les deux sont Dieu. Donc à partir de ce verset, nous concluons que la parole, qui est Jésus-Christ, est éternelle. Il n'a pas été créé. Il existait avant sa naissance humaine. Il a toujours existé. Il est Dieu. Donc ce passage biblique, Jean chapitre 1, verset 1, a répondu à notre question, qui est Jésus? Alors est-ce la fin du sermon? On pourrait rentrer à la maison? Eh bien, peut-être que cela devait être la fin du sermon. Mais il y a ceux qui enseignent que Jésus-Christ n'est pas éternel, qu'il n'a pas toujours existé, et qu'en fait, il aurait été créé et n'aurait pas existé avant sa naissance humaine. Ils croient que le mot « Dieu » ne peut se référer qu'au Père et jamais à Jésus-Christ. C'est leur croyance, c'est leur concept. Ceux qui nient la préexistence de Christ le font parce qu'ils pensent qu'ainsi ils préservent l'unicité de Dieu. Il semble qu'ils soient incapables de comprendre comment Dieu pourrait être un, sachant qu'il y a plus d'un être dans la divinité, et que les deux sont Dieu. Ils ne semblent pas capables de comprendre cela. La question de la nature du Christ, bien sûr, a été une controverse depuis l'époque des apôtres au premier siècle jusqu'à nos jours. Cette question est très importante car elle se rapporte à la nature même de Dieu et de Jésus-Christ. C'est également fondamental pour le plan et le but que Dieu a pour toute l'humanité. Maintenant, nous venons de lire Jean chapitre 1, verset 1, et la manière dont Jean l'a écrit semble claire. Mais il y a ceux qui n'accepteront pas Jean chapitre 1, verset 1, tel que Jean l'a écrit. Pour eux, cela doit signifier autre chose. Et la question est pourquoi ? Ceux qui n'acceptent pas Jean chapitre 1, verset 1, tel que Jean l'a écrit, partent de la prémisse, de l'hypothèse, de l'opinion selon laquelle il n'y aurait qu'un seul être qui est Dieu. Leur prémisse est qu'il ne peut y avoir deux êtres qui soient tous les deux Dieu. Par conséquent, à cause de cette prémisse, ils concluent que Christ a dû être créé, qu'il n'aurait pas existé depuis toujours. D'après eux, pas avant d'avoir été conçu dans le sein de Marie, sa mère. De plus, ils concluent que Christ ne peut pas être Dieu. Seul Dieu, le Père, serait Dieu. Et cette prémisse interprète pour eux Jean chapitre 1, verset 1. Mais que se passe-t-il si la prémisse est fausse ? Si l'hypothèse est fausse, leur interprétation sera également fausse. Alors, quelle est la base de leur hypothèse ? Y a-t-il quelque part un passage biblique qui confirme cela ? Existe-t-il en soutien une quelconque référence biblique ? S'il n'y en a pas, alors ce n'est que leur opinion humaine, et c'est donc sans aucune valeur. Nous allons discuter de leur supposée base scripturaire plus tard. Nous verrons que la fondation de cette prémisse est basée sur la mauvaise compréhension d'un passage biblique, mais nous y reviendrons plus tard. Le fait est que cette hypothèse qui a été retenue est fausse, et par conséquent, son interprétation est également fausse. La fausse interprétation basée sur une fausse hypothèse exige que Jean chapitre 1, verset 1, ne puisse pas être compris littéralement tel que Jean l'a écrit. La fausse supposition exige que Jean chapitre 1, verset 1 soit quelque chose de différent de la façon dont Jean l'a écrit. Leur conclusion, c'est que la parole, le terme « parole » dans Jean chapitre 1, verset 1, ne doit pas être compris comme désignant un être littéral. Selon eux, la parole devrait être comprise comme métaphorique et non comme littérale. Une personne a écrit, et je cite, « Si tel est le cas, Jésus de Nazareth est ce que la parole, entre parenthèses, la sagesse de Dieu, dans Jean chapitre 1, verset 1, est devenue. Il est l'expression unique en tant qu'être humain de la sagesse de Dieu. C'était la sagesse de Dieu qui existait depuis le commencement. Et cette sagesse est devenue une personne à la conception de Jésus. » Fin de citation. Par conséquent, sur la base de cette prémisse, il conclut que Jean ne faisait pas référence à un être réel lorsqu'il a utilisé le terme « parole ». Ils disent que lorsque Jean a utilisé le terme « parole », il voulait dire une pensée, une sagesse, une idée ou encore une expression impersonnelle de Dieu le Père. Cette pensée, cette sagesse, peu importe, cette expression impersonnelle, ce serait ce qui est devenu Christ, ce serait ce qui a été changé en Christ en tant qu'être humain à sa conception. La parole, donc, ne serait pas littérale, ce ne serait pas un être, mais une métaphore. Je vous dis cela afin que vous compreniez le concept sous-jacent. Derrière cette prémisse, si tel est le cas, quelle étrange conclusion ! Si tel est le cas, cette formulation, au mieux, dans la deuxième phrase, est maladroite et contre nature. Nous ne dirions généralement pas, n'est-ce pas, « la sagesse était avec Dieu ». Nous ne dirions pas « une pensée était avec Dieu ». Nous ne parlons pas ainsi. Nous dirions plutôt « Dieu est sage » ou nous dirions « Dieu pense ». Mais nous ne prendrions pas la sagesse ou la pensée ou l'idée ou tout autre aspect de la nature de Dieu et nous dirions « c'était avec lui ». Nous ne parlons pas ainsi. La Bible non plus ne s'exprime pas de cette façon. La Bible ne dit pas « l'amour est avec Dieu ». La Bible dit « Dieu est amour » dans 1 Jean chapitre 4 verset 8. La Bible ne dit pas la fidélité était avec Dieu. La Bible dit Dieu est fidèle dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. La Bible ne dit pas la lumière était avec Dieu. La Bible dit que Dieu est lumière dans 1 Jean chapitre 1 verset 5. Eh bien, je pourrais citer beaucoup d'exemples et ils sont tous articulés de la même façon, mais je pense que vous avez compris. Le mot « avec » signifie « séparation ». Les caractéristiques de Dieu, ses aspects de sa nature, ne sont pas séparés de Dieu. Lorsque nous décrivions la nature de Dieu ou les caractéristiques de Dieu, nous n'utilisons pas le mot « avec », comme si ces caractéristiques étaient en quelque sorte distinctes ou différentes de Dieu. La sagesse de Dieu est ici, mais Dieu est là. Ou Dieu est ici, mais l'amour de Dieu est là. Nous ne comprenons pas les choses de cette façon. C'est en fait très gênant et très inhabituel. Avec, le mot « avec » signifie une relation d'une personne ou d'une chose avec une autre personne ou une chose. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, et ainsi de suite. Ces attributs ne sont pas avec lui. Ils ne sont pas séparés de lui. Ils font partie de lui. Ils sont sa nature même. Mais regardons la troisième phrase. La parole était Dieu. Celle-ci est très difficile à expliquer par ceux qui tiennent à cette prémisse que j'ai décrite, selon laquelle cette parole, le mot parole serait un concept inanimé plutôt qu'un être distinct. Ils comprennent cette phrase différemment de la façon dont Jean l'a écrite. Pour eux, cette phrase ne peut pas être prise littéralement comme décrivant un être. Ce serait, d'après eux, une métaphore. Par conséquent, ils disent « le mot « parole » signifie une qualité ou une caractéristique de Dieu ». Il ne fait pas référence à un être ou une entité distincte. Leur interprétation, alors, qui est basée sur cette fausse prémisse, comme nous le verrons, signifie que la parole, selon la citation de cet autre commentaire, la sagesse, la pensée, l'idée, tout ce qui était divin ou semblable à Dieu ou pieux, mais pas un être, mais pas une entité. Donc, en substituant les mots, en interprétant le mot « divin » comme étant Dieu, ils ont conclu que la parole, la sagesse ou la pensée de Dieu ou quoi que ce soit de divin a été changée en Christ. Elle est devenue Jésus. Et ce n'aurait pas été vraiment Dieu, mais seulement une qualité pieuse ou divine. C'était un caractère divin, semblable à celui de Dieu ou pieux, mais pas un être selon leur prémisse. Eh bien, le problème avec cette interprétation, c'est que Jean n'a pas écrit « divin » ou « semblable à Dieu » ou « pieux ». Il ne l'a pas écrit ainsi. Il aurait pu, et il l'aurait écrit ainsi si c'était ce qu'il voulait dire. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Et il ne l'a pas du tout écrit ainsi. Il a utilisé le mot « Dieu » qui fait référence à un être et non à une pensée ou à un concept impersonnel. En fait, ce qu'ils disent vraiment, je suppose, c'est que Jean n'a pas écrit exactement ou correctement ce verset. Ils pensent que Jean voulait dire ou aurait dû dire, je cite, « Au commencement, la sagesse existait. Dieu avait de la sagesse et cette sagesse était vivante. » Bien sûr, Jean n'a pas écrit cela et il ne voulait pas dire cela. Alors, cela nous conduit à quelques questions et quelques observations. Tout d'abord, le mot « Dieu ». Le mot « Dieu » en grec, je ne donne pas habituellement de mots grecs ou hébreux, mais je le ferai dans ce cas. Le mot grec est « Theos ». T-H-E-O-S, Theos. Le mot « Dieu » est le même mot dans les deux phrases, la deuxième et la troisième phrase. Ils doivent donc avoir le même sens. « Theos » est un nom. Ce n'est pas un adjectif. Cela ne peut pas signifier à la fois « Dieu » qui est un nom dans une proposition et dans une autre proposition signifier « divin » ou « pieux » qui sont des adjectifs. On ne peut pas faire ça. C'est un nom dans les deux propositions. Ce n'est pas un adjectif, ni dans l'une ou dans l'autre proposition. Nous ne pouvons pas changer ce que Jean a écrit ou l'interpréter comme si cela avait été écrit d'une manière différente, ce qui n'est pas le cas. Deuxièmement, est-ce que Jean dit que la pensée ou la sagesse de Dieu ou quoi que ce soit était avec lui depuis le commencement, depuis l'éternité? Eh bien, ce serait une étrange déclaration. Bien sûr, tous les aspects de la nature de Dieu étaient en lui depuis l'éternité. De toute évidence, il l'était. Alors pourquoi faudrait-il le dire? Pourquoi choisir aussi la sagesse ou la pensée de Dieu et la changer en Christ? Pourquoi juste cet aspect de la nature de Dieu, comme je l'ai cité plus haut? Pourquoi la sagesse seule aurait été transformée? Pourquoi ne pas transformer l'amour de Dieu, ou sa miséricorde, ou sa patience, ou son pardon, ou sa compassion, ou sa puissance? Pourquoi la sagesse? Pourquoi les pensées? Pourquoi changer celle-là? Pourquoi cette focalisation? Ou d'ailleurs, si nous parlons de métamorphoser quelque chose à propos de Dieu, de sa nature en celui qui est devenu un être humain, Jésus-Christ, pourquoi ne pas changer tout ce qui est de la nature de Dieu en celui qui est devenu Christ? Pourquoi juste une chose? Pourquoi pas tout? On le voit bien, tout ce concept est évidemment très tiré par les cheveux. Cela n'a vraiment aucun sens. Et bien sûr, ce n'est pas ce que Jean écrit. Troisième point. Si la pensée de Dieu, si la sagesse de Dieu a été changée en Christ, que d'une manière ou d'une autre, cette sagesse que Dieu avait serait maintenant devenue Christ, si elle a été changée en Christ, en quelque sorte, prise de Dieu et maintenant changée en Christ, si cela s'est produit, alors cela a-t-il un sens? Car si la parole, cette sagesse, c'est maintenant Jésus-Christ, cela veut-il dire que Dieu n'a plus de sagesse? Après tout, la sagesse a été changée en Christ. Quand Christ vient sur terre, quoi qu'il soit maintenant, il était autrefois la sagesse de Dieu, mais maintenant la sagesse de Dieu, c'est Christ. Cela veut-il dire que Dieu n'a plus de sagesse parce que sa sagesse est maintenant sur la terre sous la forme de Jésus-Christ? Cela n'aurait évidemment aucun sens. Ce serait certainement une conclusion étrange. Mais vraiment, à quoi sert Jean chapitre 1, verset 1? Est-ce pour établir l'éternité passée de Dieu et ses caractéristiques? Non. Bien sûr, tout le monde l'a déjà compris. Ils ont accepté cela. C'était déjà accepté. Jean écrit au sujet de Jésus-Christ. Christ est le sujet. Il est le sujet de son évangile. Et ce qu'il fait, c'est établir dès le début les premiers mots, l'existence éternelle de la parole, et établir que cette parole est Jésus-Christ. C'est important. Et Jean voulait établir cela dès le début, dans sa déclaration préliminaire, dans la déclaration préliminaire de son évangile. Si nous continuons avec les versets 2 et 3, nous trouvons quelque chose allant dans ce sens. Verset 2, « Elle », c'est-à-dire la parole. Remarquez, il ne dit pas « cela », il dit « elle », se référant à la parole ou à Jésus-Christ. « Elle était au commencement avec Dieu », dit-il encore une fois. Ensuite, remarquez ce qui suit. « Toutes choses », verset 3, « ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Est-ce que Jean serait en train de nous dire qu'une parole métaphorique, une sagesse personnifiée, aurait été capable de créer toutes choses? Cela n'a aucun sens. Tout a été créé par la parole. Comment la parole pourrait-elle créer quoi que ce soit si elle n'était pas un être ayant le pouvoir et la capacité de créer et de fabriquer? Un mot métaphorique tel que le mot « sagesse » n'a pas et ne peut rien créer. Et un mot, une pensée, une sagesse ne peuvent pas devenir un produit. Par exemple, un charpentier peut avoir une bonne idée, un concept, des pensées dans son esprit à propos de quelque chose qu'il souhaite faire. Peut-être pourrait-il le visualiser, le voir dans son esprit. C'est quelque chose de réel dans son esprit. Mais ce n'est que dans sa tête. Et ces pensées qui ne vont pas faire le travail. Elles ne vont pas créer le produit. Ces pensées ne deviennent certainement pas et ne se transforment pas en ce produit. Oh, bien sûr, les charpentiers aimeraient que cela puisse être fait de cette façon, mais cela ne se produit pas de cette façon. La pensée est là, mais il faut un être pour faire le travail et pour faire la création. Ainsi, non seulement le Christ, c'est-à-dire la parole, n'a pas été créé, mais il est le Créateur. Remarquez le verset 10. Elle, se référant à la parole, donc à Christ, était dans le monde, et le monde était fait par elle. Alors, comment le Christ aurait-il pu le faire s'il n'avait pas existé auparavant pour le faire? Ainsi, le Christ a préexisté avant toute chose. Tout a été fait par lui. Il n'est pas venu à l'existence, c'est-à-dire par une naissance. Mais vous pourriez vous poser la question, pourquoi le terme « parole » est-il utilisé pour désigner le Christ? Il y a probablement plusieurs raisons. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un mot? Un mot est un moyen par lequel nous communiquons notre volonté, nos pensées aux autres. Nous utilisons des mots pour transmettre ou pour exprimer nos pensées et nos idées. C'est notre moyen de communication avec les autres. Et dans ce sens, le Christ est le porte-parole. Il est le moyen par lequel Dieu communique sa volonté, son dessein, son instruction à l'homme. Notez dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé, et en utilisant des mots, bien sûr, à nos pères par les prophètes. Verset 2, Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé, en utilisant des mots, par son Fils. Dieu ne nous parle pas directement, il n'a pas fait cela, mais il nous communique sa volonté, son plan, son dessein, par l'intermédiaire de son Fils. Son Fils est le porte-parole. Il est la parole, pour ainsi dire. Remarquez ceci également. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Alors, qui a créé les mondes? Eh bien, Dieu l'a fait. Mais il l'a fait par Christ. Alors, qui est le Créateur, au fait? Dieu ou Christ? Tous les deux. Dieu est le Créateur, mais Christ l'est aussi. Parce que Dieu a fait sa création par Jésus-Christ. Nous pouvons donc nous référer à Dieu en tant que Créateur et au Christ en tant que Créateur également. Maintenant, remarquez, il n'est pas dit ici que Dieu a fait cela par la sagesse. Il l'a fait par l'intermédiaire de son Fils. Son Fils est Jésus-Christ. Son Fils n'est pas la sagesse. La sagesse n'a pas créé. La sagesse n'a pas fait. Dieu a créé par son Fils. C'est ce que nous dit Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 2. Remarquez aussi Jean, chapitre 12 et verset 49. C'est Christ qui parle et il dit, « Car je n'ai pas parlé de moi-même. » J'ai deux questions. Encore une fois, il fait usage de mots, mais ce n'est pas de sa propre autorité parce qu'il continue en disant, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Le Christ est le porte-parole. Verset 50, « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Ainsi, par cette terminologie, en utilisant le terme « parole », Jean établit que le Christ existait avant sa naissance humaine, qu'il n'a pas été créé, qu'il est éternel, qu'il était avec Dieu le Père et qu'il est aussi Dieu. Et Jean établit aussi par cette terminologie que Dieu le Père communique sa volonté par son Fils, Jésus-Christ. Ils travaillent ensemble dans une totale unité et dans une harmonie complète. Dieu communiquant sa volonté à travers son Fils, Jésus-Christ. Revenons à la prémisse que j'ai mentionnée au tout début, selon laquelle le Christ n'aurait pas existé éternellement et qu'il ne serait pas Dieu. J'ai deux questions que j'aimerais poser aujourd'hui, auxquelles j'aimerais évidemment répondre. Premièrement, y a-t-il des passages bibliques qui affirment clairement que Christ existait avant sa naissance humaine? Si tel est le cas, alors la prémisse selon laquelle Christ n'existait pas avant sa naissance humaine est fausse. Je vais lire maintenant un certain nombre de ces passages bibliques. Je vais le faire très rapidement et je ferai très très peu de commentaires à leur sujet, parce que je pense que les Écritures parlent assez bien d'elles-mêmes. Nous allons revenir à Jean chapitre 1, c'est là où nous étions déjà, verset 30. Jean-Baptiste parle, se référant à Christ, et il dit ceci dans la version Darby. C'est celui-ci, le Christ, dont moi je disais, « Après moi vient un homme qui prend place avant moi, car il était avant moi. » Eh bien, vous savez que Jean-Baptiste est né avant la naissance de Christ. Jean-Baptiste est né environ 6 mois avant la naissance du Christ. Alors comment Christ, qui est né après Jean-Baptiste, pourrait-il être avant lui? Eh bien, évidemment, il ne faisait pas référence à sa naissance humaine, mais à sa préexistence. De cette façon, Christ était avant Jean-Baptiste, non pas dans la naissance humaine, mais dans sa préexistence. Jean chapitre 3, verset 13, quelques pages plus loin. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et qui est descendu du ciel? Le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Alors, qui est le « il » qui est descendu du ciel? Et il répond à la question, le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Il était sur la terre, et il est maintenant au ciel. Il est le même. Nous ne parlons pas de deux êtres différents. Celui qui est descendu du ciel est le même que celui qui est monté au ciel. C'est un seul et même être. Maintenant, où est la sagesse dans tout cela? La pensée de Dieu, ou la sagesse divine, dont il était question. Bien sûr, ce n'est pas le sujet. C'était donc une fausse interprétation. Cela n'a pas sa place ici. Jean 6, verset 62. Jean 6, verset 62. Vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Christ était donc là avant. C'est ce qu'il dit. Le Fils de l'homme, il ne s'agit pas de sagesse ici. Il ne s'agit pas de pensée. Le Fils de l'homme est monté là où lui, le Fils de l'homme, était auparavant. L'être humain, le Christ, était-il auparavant au ciel? Eh bien, il est dit qu'il y était. Il était là depuis toute l'éternité, bien sûr. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Nous parlons de l'époque de l'Exode, environ 1400 ans avant que Paul n'écrive cela. Et il est dit que Christ était ce rocher. Ce n'est pas la sagesse qui était ce rocher, ou quelque chose d'autre qui était ce rocher. Christ était ce rocher. Remarquez qu'il utilise l'imparfait « était ». Cela ne dit pas que Christ est ce rocher lorsqu'il se référait à lui maintenant, ou qu'il le sera dans le futur, ce rocher. Il était ce rocher. Il a évidemment préexisté. Jean chapitre 8, verset 56. Jean 8, verset 56. Christ a dit que Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Verset 57, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et comment peux-tu dire que tu as vu Abraham, qui a vécu 2000 ans avant les Juifs et avant Jésus à cette époque? Comment est-ce possible? Remarquez ensuite ce que Jésus a dit. Verset 58, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fut, je suis. Vous remarquez que c'est imprimé en majuscule dans la plupart de vos Bibles. Je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Ils considéraient cela comme un blasphème. Donc, tout d'abord, quand Jésus a dit qu'il existait avant Abraham, les Juifs ont compris que cela signifiait exactement ce qu'il avait dit, qu'il était vivant il y a 2000 ans et qu'il était plus âgé, en fait, même qu'Abraham ne l'était. La seule possibilité offerte ici, c'est que Christ a préexisté à sa naissance humaine. Remarquez aussi, il a dit « Je suis ». Maintenant, beaucoup ne comprennent pas ce que signifie ce terme. Mais les Juifs, à l'époque, savaient ce que cela signifiait. Ils n'aimaient pas ça du tout. Ils n'étaient pas d'accord avec cela, mais ils comprenaient parfaitement. Ils savaient exactement ce que cela signifiait. Ceci est une référence au chapitre 3 du livre de l'Exode, quand Moïse a demandé à Dieu quel était son nom. Et Dieu dit, « Je suis celui qui suis ». De plus, Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis est l'un des noms de Dieu. C'est Dieu. » Ainsi, lorsque Christ a dit « Je suis », il dit « Je suis Dieu ». Et les Juifs n'étaient pas d'accord avec cela. Ils n'ont pas aimé cela, mais ils l'ont compris. Et ils considéraient cela comme un blasphème, et ils voulaient le tuer parce qu'il disait qu'il était Dieu. Jean, chapitre 17, verset 5. Dans la prière finale du Christ, nous y reviendrons également plus tard, le Christ prie le Père et il dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Comment cela pourrait-il être? Jésus-Christ avait la gloire auprès du Père avant la création de l'univers. C'est ce qu'il dit. Et il demande à être restauré dans une gloire qu'il avait, une ancienne gloire qu'il avait avant que le monde ne commence. Il ne parle pas de sagesse ou d'une pensée, ou d'une idée, ou d'une autre partie de la nature de Dieu. Il parle de lui-même. Il n'a pas dit « Glorifie-moi de la gloire que ta sagesse avait avant que le monde fût. » Il dit « Glorifie-moi de la gloire que j'avais, qu'il avait lui-même. » Colossiens, chapitre 1, verset 15. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Le Fils, se référant au Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses. Dieu est créateur, mais Christ l'est aussi. Par lui, par Christ, toutes choses ont été créées. Comment Christ aurait-il pu faire cela s'il n'était pas là? Il devait avoir préexisté. Il fallait qu'il soit là pour faire cette création. Il dit aussi, « Tout a été créé par lui et pour lui. » Verset 17, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Je ne vois pas comment cela pourrait être exprimé ou expliqué plus clairement que Paul ne l'a fait ici dans Colossiens. Christ, non pas la sagesse ou un autre aspect de la nature de Dieu, Christ a créé toute chose. Il était là avant toute chose. Il préexistait à sa naissance humaine. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 10, dit ceci en se référant à Christ. « Toi, Seigneur, il est question de Christ. Tu as au commencement, Christ était au commencement, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Christ a fait cela, non pas la sagesse. Il n'est même pas dit que Dieu le Père l'a fait. Il est question de Christ. Ainsi, le sujet est Christ, pas la sagesse, ni même Dieu, bien que, comme je l'ai dit, Dieu l'a fait à travers Christ. Nous comprenons cela, mais plus précisément, il est dit que Christ a au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. La sagesse a-t-elle des mains? Les pensées ont-elles des mains? Qui fait le travail? Les êtres font le travail. Christ l'a fait. C'était son œuvre, l'œuvre de ses mains. La deuxième question que je voulais poser, en revenant à la prémisse dont je parlais avant, est la suivante. Y a-t-il des passages bibliques qui affirment clairement que Christ est Dieu? Si c'est le cas, la prémisse selon laquelle le Christ ne serait pas éternel et qu'il aurait été créé, et donc qu'il n'est pas Dieu, est une fausse prémisse. Nous commencerons par Matthieu, chapitre 1, verset 22. Matthieu, chapitre 1, verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, voici la Vierge sera enceinte, verset 23, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous, non pas la sagesse divine ou la sagesse de Dieu, il est Dieu et c'est un nom, c'est un être, c'est l'être, c'est Dieu qui est avec nous. C'est-à-dire que son nom nous dit même que Christ est Dieu. Marc, chapitre 2. Je n'irai pas tout le contexte, mais dans Marc, chapitre 2, il est question d'un paralytique qui a été amené à Christ pour être guéri. Et au verset 5 de Marc chapitre 2, il est dit « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés ». Et bien sûr, les Juifs, les scribes qui étaient là, étaient très offensés par cette déclaration, parce qu'ils lui ont posé la question au verset 7, « Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Et c'est vrai. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais le Christ a dit au verset 10, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Il s'appelle lui-même Dieu, il a donc le pouvoir de pardonner. Seul Dieu peut faire cela. Ainsi donc, il doit être Dieu. Et il a dit qu'en fait, il avait le pouvoir de le faire. Jean chapitre 5, verset 17. Jean chapitre 5, verset 17 et 18. Christ a dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, selon eux, bien sûr, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Les Juifs ont cherché à tuer le Christ, parce que lorsque le Christ a dit « Dieu est mon Père, je suis son Fils », ils ont compris ce que cela signifiait. Si vous êtes un fils de Dieu, vous êtes Dieu. Si Dieu est votre Père, vous êtes Dieu. Ils l'ont compris, et ils n'aimaient pas ça. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ils pensaient que c'était un blasphème. Ils voulaient le tuer. Mais ils ont compris, et ils l'ont bien compris. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de qui ? Du Christ, bien sûr. Christ va venir établir le royaume de Dieu. Christ va venir, c'est ce que nous attendons. Et la manifestation de la gloire, de qui ? De notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Christ est-il appelé Dieu ? Oui, il l'est. Il est notre Sauveur, et il est aussi notre grand Dieu. Et c'est ce que nous attendons avec impatience, sa venue. Jean, chapitre 20, verset 28. Nous savons tous que Thomas a douté. Quand il a vu le Christ, qu'a-t-il dit ? Mon Seigneur et mon Dieu. Il a reconnu Christ comme Dieu. Et le Christ n'a pas dit le contraire. Il était Dieu. Romains, chapitre 9, verset 5. Romains, chapitre 9, verset 5, où il est dit que des Israélites est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose. Dieu béni éternellement. Christ est Dieu. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Nous avons déjà lu cela dans Jean, chapitre 1, verset 1, et dans d'autres passages bibliques aussi. Mais en voici juste un autre. Dieu, non pas la sagesse ou la sagesse divine ou la sagesse de Dieu, Dieu s'est manifesté dans la chair. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui. Ici, quel est l'antécédent de lui ? C'est le Fils Jésus-Christ qui est l'antécédent. C'est lui, le Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. C'est ce que Jean a dit. Il est Dieu. Hébreux, chapitre 1, verset 6. Hébreux, chapitre 1, verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, se référant à Dieu, faisant cela, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dieu dit aux anges d'adorer Christ. Il doit donc être Dieu, parce que Christ a dit à Satan, dans Matthieu, chapitre 4, et verset 10, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. » Dieu et Dieu seul peut être adoré. Aucun autre être ne peut être adoré, pas même les anges. Donc si les anges adorent le Christ, c'est parce qu'il est Dieu. Hébreux, chapitre 1, verset 8, est une révélation fantastique ici pour nous. Dieu parle. Et il s'adresse à son Fils dans Hébreux, chapitre 1, verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Et remarquez, il ne dit pas ton trône, ô mon fils. Dieu parle, s'adressant au fils, et il dit, ton trône, ô Dieu. Dieu fait référence à son fils en tant que Dieu. Eh bien, si Dieu se réfère à son fils comme étant Dieu, qui suis-je pour dire que Christ n'est pas Dieu? Si Dieu dit que son fils est Dieu, il est Dieu. Remarquez aussi au verset 9, c'est pourquoi, c'est intéressant, cette expression, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, et ainsi de suite. Christ est Dieu, mais Dieu, son Père, est son Dieu. Ou on pourrait le dire ainsi, le Dieu de Dieu est Dieu. Alors, laissez-moi vous expliquer cela un peu plus clairement. Dieu le Père est le Dieu de Dieu le Fils. Dieu le Père est le Dieu de Dieu le Fils. Après tout, Christ a dit, n'est-ce pas, le Père est plus grand que moi. Jean chapitre 14, verset 28. Dieu le Père est Dieu, mais le Fils est aussi Dieu. Ce sont clairement deux êtres dans Hébreu, chapitre 1, verset 8. Tous les deux sont Dieu. Par conséquent, la prémisse que j'ai rappelée plus tôt sur le fait que Christ n'est pas éternel, qu'il a été créé, qu'il n'est pas Dieu, eh bien, c'est une fausse prémisse. Mais j'ai mentionné plus tôt qu'il y avait un passage biblique que certains utilisent pour essayer de montrer qu'il n'y a qu'un seul être qui est Dieu. Pour cela, ils se tourneront vers, ils se rapporteront à Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Nous allons donc y aller et lire ce verset. Deutéronome, chapitre 6, verset 4, dit dans la version Darby, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. » Le mot pour « un » ici, en hébreu, est « echad ». E-C-H-A-D. E-C-H-A-D. Cela signifie « un ». Mais pour certaines personnes, « un » signifie singulier, unique, et ne peut jamais avoir plus d'une partie, ou plus d'une chose, ou plus d'un être. Cela ne peut être qu'un ou une, et cela ne pourrait jamais inclure une pluralité. Selon le lexique Genesius, hébreu et chaldéen de l'Ancien Testament, « echad » signifie, entre guillemets, « s'unir », »,« se réunir », »,« être dans l'unité ». Et d'autres sources diront fondamentalement la même chose. Mais comme vous pouvez vous y attendre, certains ne seront pas d'accord avec cette définition. Ils ne pensent pas que cela puisse être exact. Examinons donc son utilisation. Comment le mot « echad » est-il utilisé dans la Bible? Peut-il signifier une pluralité de choses? Peut-il être une unité de plusieurs parties? Peut-il être une unité composée? Peut-il être un composé de plusieurs autres? Eh bien, regardons et voyons. Genèse, chapitre 2, verset 24. Genèse, chapitre 2, verset 24. Vous connaissez ce verset. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une echad, seule chair. Donc ici, cette seule chair, cette seule unité familia est composée de « il », mais « il » est ici au pluriel. Adam et Ève sont deux personnes. Pourtant, « ils » au pluriel sont un. Il n'est pas dit qu'ils sont deux, il est dit qu'ils sont un. On peut donc inclure, dans ce cas, deux êtres, Adam et Ève. Un, oui, ils sont un, et deux personnes ne font qu'une. Genèse chapitre 11, versets 5 à 6. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Le seul peuple, bien sûr, que de cette situation particulière se réfère à des centaines, voire des milliers d'individus, plus d'une personne. Alors, peut-on inclure plus d'un être? Eh bien, c'est évidemment possible, c'est le cas ici. Un peuple, mais il y a beaucoup de monde dans ce seul peuple, et beaucoup de gens dans un seul peuple. Genèse, chapitre 29, verset 20. Genèse, chapitre 29, verset 20, se référant, se rapportant à Jacob. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Où est un? Où se trouve un seul dans le verset? Où trouve-t-on Echad? C'est intéressant. Comment les traducteurs vont-ils traduire ce verset? Remarquez le mot « jour », J-O-U-R-S. Le mot « jour » est au pluriel. Il n'est pas au singulier, il est au pluriel. Mais « echad » précède « jour » au pluriel. « Un » précède « les jours ». On ne peut pas dire « un jour » J-O-U-R-S. Grammaticalement, c'est impossible. Les traducteurs ont donc choisi un mot, « quelque », et c'est au pluriel. Évidemment, ce que nous avons ici, c'est une unité de temps. Dans l'esprit de Jacob, c'était le court laps de temps pendant lequel il servait, ou du moins cela lui semblait un court laps de temps. Parce que 7 fois 365 jours, ça n'est pas exactement ce qu'on appellerait une courte période. Ça fait beaucoup de jours. Mais dans l'esprit de Jacob, c'était une courte unité de temps, une courte période de temps. Et donc, le mot « echad », un, a été utilisé. Et cela comprend 7 fois 365 jours. Vous pouvez faire le calcul, ce n'est pas un jour. Évidemment, il y a beaucoup de mots que nous utilisons dans notre langue qui expriment l'unité collective. Que diriez-vous, par exemple, d'une famille composée de plusieurs personnes? Un groupe? Que diriez-vous d'une église? Que diriez-vous d'une congrégation, une ville, une nation, un corps? Que diriez-vous de celle-ci? Une douzaine. Il y en a 12 dans une unité, dans une douzaine. Combien y a-t-il de races humaines? Une seule. Il n'y a qu'une seule humanité, mais elle est composée d'autres humains. Je pourrais facilement comprendre comment une famille peut avoir plus d'une personne en son sein. Je peux comprendre comment une église peut avoir plusieurs membres dans l'église. Je peux comprendre comment une nation peut avoir plus d'un citoyen. Je n'ai pas de problème avec ça. Je peux aussi comprendre qu'il n'y a qu'une seule race humaine, une seule humanité, mais des milliards d'êtres humains. De même, je pourrais comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais à l'heure actuelle, il y a deux êtres dans ce seul Dieu. Il y a beaucoup d'autres exemples que je pourrais citer ayant le mot « Echad ». Peut-être voudriez-vous en rechercher quelques-uns vous-même. Certains d'entre eux sont très intéressants. Vous savez, dans le Nouveau Testament, on fait le même constat. C'est un mot différent, bien sûr, en grec et pas en hébreu. Jean 10, verset 30, chapitre 10, verset 30, dit « Moi et le Père, deux êtres, nous sommes un. » Ils sont un. Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, sont un. On peut donc inclure plus d'un être dans une unité. Nous comprenons cela. Romains chapitre 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, il parle de l'Église, nous formons un seul corps. Il n'y a qu'une seule véritable Église, mais composée de milliers d'êtres humains. Nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais c'est l'unité collective des personnes qui composent un seul corps. Galates, chapitre 3, verset 28, s'y rapporte. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Nous avons cette fragmentation, nous avons ce groupe-ci et nous avons ce groupe-là, nous avons toutes sortes de groupes, mais nous sommes tous un en Christ. Éphésiens, chapitre 2, verset 14, se réfère aux juifs et aux non-juifs que Dieu a réunis ensemble et a fait un. Et il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Alors bien sûr, dans Jean chapitre 17, je ne commencerai pas au verset 1, mais dans Jean 17, Christ dans sa prière a dit, « Je vais juste me reporter au milieu du verset 11. » Il dit ceci, « Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient, pluriel, afin qu'ils soient comme nous, pluriel. » Dieu et Christ sont un, et nous aussi, nous sommes un. Ainsi, on peut indiquer et donner du sens effectivement à une pluralité réunie dans l'unité. Christ a également dit au verset 21, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Ainsi, nous allons également être un ensemble dans l'unité de but et de croyance avec Dieu et avec Christ également. Verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Nous comprenons donc cela. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a de problème pour comprendre ce que Christ dit. « Nous » et « ils » sont des mots pluriels. Mais le « nous » et le « ils » sont un, dans le sens d'être réunis dans l'unité de croyance, de but et de pratique. Nous sommes réunis avec Dieu et avec Christ, et nous sommes vraiment et devrions être un. Cela revient à la question que j'ai posée au tout début. Qui est Jésus? Sur la base des passages bibliques que nous venons de lire, je ne peux accepter aucune autre conclusion que celle selon laquelle Jésus-Christ, notre Sauveur, est éternel. Il n'a pas été créé, il a toujours existé, et sur la base des mêmes passages bibliques, je ne peux accepter non plus une autre conclusion que celle selon laquelle Jésus-Christ, notre Sauveur, est Dieu, avec son Père qui, bien sûr, est aussi Dieu. L'apôtre Jean, lorsqu'il parlait de la parole qu'il identifiait comme étant Jésus, l'a si clairement et si succinctement dit que, très franchement, il n'y a pas besoin d'explication ou d'interprétation. Il a dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et cela, mes amis, est la conclusion du sermon.